Chers amis de l'histoire dont Fontès, qui est passionné et qui avait bien raison de l'être, consacré aux Plantagenêts et Domfront. J'ai bien dit les Plantagenêts et Domfront, et pas seulement les Plantagenêts à Domfront, parce que les Plantagenêts, ils se sont occupés de Domfront, des fois, même quand ils n'étaient pas physiquement présents à Domfront. Or, on va commencer par pourquoi les Plantagenêts à Domfront et pourquoi se sont-ils intéressés à notre cité. Ça implique un petit retour en arrière. Domfront était une possession personnelle du roi Henri Ier d'Angleterre, duc de Normandie, et donc seigneur personnel de Domfront avant même d'avoir été roi d'Angleterre et duc de Normandie. Sa fille, Mathilde, est sa seule enfant légitime survivante depuis la mort de son fils, Guillaume Adelin, dans le naufrage de la Blanche Nef, au mois de novembre, je crois que c'était 1120 ou 1119, peu importe, pour paix à son âme, au large de Barfleur. Donc il perd son fils et successeur, et il n'a plus qu'une fille. Cette fille, elle avait d'abord été mariée à l'empereur du Saint-Empire, ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelait l'Empire tout court à l'époque, Henri V, en 1114. Elle a gagné le surnom d'empereresse, fait reconnaître néanmoins comme son héritière par les barons normands en cas d'absence d'héritier mâle. Et il le savait déjà qu'il n'aurait pas d'héritier mâle, enfin qu'il avait très peu de chances d'avoir un héritier mâle, Henri Beauclerc. Donc Mathilde doit lui succéder. En 1128, elle épouse, on lui fait épouser, Geoffroy d'Anjou. Alors Geoffroy d'Anjou, c'est le fils du comte Foulque V. Et Geoffroy d'Anjou devient comte d'Anjou dès l'année suivante, en 1129. Parce que son père part définitivement pour la Terre Sainte. Et donc son fils lui succède au comté d'Anjou. Alors, comté d'Anjou et du Maine à l'époque, c'est-à-dire déjà au sud de Domfront, à l'immédiat sud de Domfront, c'est chez lui. Ce Geoffroy était surnommé Plantagenêt. Ah ! Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire-là. Il y a deux explications principales qui ont été retenues. Soit parce qu'il avait l'habitude de la coiffe, première explication, et où la deuxième explication, ce serait qu'il a planté des genêts, alors qu'il faut comprendre au sens de bois, forêt, landes plantées de genêts, pour y pratiquer la chasse. C'est-à-dire que le plantagenêt, ce serait le planteur de genêts. Si on se rapporte à la chronique de Vasse, le chroniqueur anglo-normand, il dit à un endroit « Gisfray, quel oncle à moi, plante jeuneste, qui muit à voix, bois et forêt. » Geoffroy, que l'on appelait plante jeunet, qui beaucoup avait des bois et des forêts. Voilà. En décembre 1125, à la mort d'Henri Beauclerc donc, un nommé Guigan Algazon, qui avait comme titre d'être vicomte d'Argentan, Exmes et Domfront. Alors c'était une grande, circonscription. C'était pas uniquement la vicomté de Domfront qu'on connaîtra plus tard. Argentan, Exmes et Domfront remet ses châteaux à Mathilde parce qu'il la considérait comme sa seigneur légitime, sa seigneur avec un E pour parler féministe actuel. Ut naturalem dominam susceptit. Peut-être parce que ces territoires faisaient déjà partie de sa dot. On ne sait pas exactement. Le décès d'Henri Beauclerc a suscité une guerre civile entre le couple Geoffroy Plantagenêt-Mathilde et Étienne de Blois, qui était petit-fils de Guillaume le Conquérant par sa mère Adèle. Geoffroy et Mathilde ont contrôlé assez rapidement, donc on l'a vu, le sud de la Normandie qui s'est offert à eux très rapidement, et puis ensuite la Normandie tout entière. Ils ont mis d'ailleurs un certain temps à le faire, on va en reparler. Mais ils n'ont jamais parvenu à dominer le royaume d'Angleterre. On a trouvé un compromis définitif en 1153. Étienne a adopté le fils de Geoffroy Plantagenêt, qui s'appelait Henri, c'est le fameux Henri II Plantagenêt dont on va avoir à reparler, et on a fait son successeur. En quelque sorte, le Étienne de Blois conservait le royaume d'Angleterre en viager. Voilà. Il avait d'ores et déjà perdu la Normandie et conservait le royaume d'Angleterre. Et à sa mort, ça passerait aux Plantagenets. Geoffroy s'est donc concentré sur la conquête de la Normandie, qu'il a mis donc 11 ans à achever de conquérir et à contrôler. Il est mort en 1151 et donc son fils Henri, dont on vient de parler, lui a succédé. Je fais une parenthèse, Mathilde est morte plus tardivement en 1167. Donc Henri Plantagenet succède à son père, il devient donc comte d'Anjou et du Maine. Il était déjà duc de Normandie et il devient roi d'Angleterre en 1154 à la mort d'Étienne de Blois. C'est pour ça qu'on l'appelle Henri II, Henri II d'Angleterre en fait, hein, comme Henri Beauclerc était Henri Ier d'Angleterre. Il avait épousé en sus, en 1152, la duchesse d'Aquitaine, Aliénor. Alors l'Aquitaine en question, c'est plus que l'Aquitaine actuelle, c'est la Grande Aquitaine qui comprend l'Aquitaine, bien sûr, le Limousin, l'Auvergne et le Poitou. Donc ça a été un énorme coup politique. Cette Aliénor d'Aquitaine avait été mariée du temps du roi Louis VI, enfin in extremis d'ailleurs, parce que le roi Louis VI est mort tout de suite après le mariage, à l'héritier du trône de France, à Louis VII. Et le couple ne s'est pas entendu, ils ont divorcé, et Aliénor d'Aquitaine, je ne rentre pas sur les histoires entre Aliénor et Louis VII, hein, on ne peut pas tout raconter ici quand même, on ne fait pas tout aujourd'hui, et Aliénor s'était remariée à Henri Plantagenet, ça a été un coup très très dur pour la monarchie capétienne, parce que le couple possédait, ce qu'on a appelé abusivement l'Empire Plantagenet, ils possédaient à eux deux toute une large bande de territoire qui allait de la frontière de l'Écosse jusqu'au pied des Pyrénées. Hein, l'Angleterre, la Normandie, l'Anjou, le Maine, le Poitou, l'Aquitaine, enfin bon, tout jusqu'aux Pyrénées. C'était énorme par rapport au tout petit domaine royal que possédait en propre le roi Louis VII. Donc voilà, on en était là. Et ce mariage met le roi de France en position d'infériorité par rapport aux Plantagenets, mais, et ça va être tout le problème qui va empoisonner les relations internationales, enfin en tout cas franco-anglaises, pour au moins 3 siècles, pour ne pas dire plus, la duchesse d'Aquitaine et le duc de Normandie, le comte d'Anjou, restent des vassaux du roi de France pour leur possession continentale. Voilà. Alors, on sait que Domfront a été donné en douaire à Aliénor, avec Falaise et Bonneville sur Touques. Ça ne me paraît pas énorme, mais enfin, d'un autre côté, Aliénor, elle n'a pas besoin de ça, puisqu'elle est au cœur du domaine Plantagenet. Donc, une halte, une étape sur les routes nord-sud, quand il se déplace, et il se déplace souvent, hein, les grands personnages à cette époque. C'est une étape agréable parce qu'on peut aussi y chasser dans les forêts proches. Enfin bon, c'est extrêmement agréable pour eux de s'arrêter à Domfront. Bon. Ceci étant, ils y sont venus, mais enfin, on ne va pas être impérialiste. Hein. Henri II Plantagenet est venu à Domfront. J'ai repéré 8 séjours attestés d'Henri Plantagenet à Domfront, soit par des documents, soit par des témoignages fiables, plus au moins 4 autres séjours probables. Alors les séjours, ça peut être quelques jours ou quelques semaines, hein, pas plus, hein. Mais je ne prétends pas avoir étudié complètement ce qu'on appelle l'itinéraire d'Henri II et peut-être qu'on trouverait trace d'autres séjours. Alors parmi les séjours les plus marquants, enfin d'abord avant les séjours, on va rappeler que quelque part entre 1156 et 1159, le document ne permet pas d'être plus précis, dans une charte donnée à Argentan, Henri II confirme la libre jouissance de leurs coutumes aux bourgeois de Domfront. En fait, Henri II concède aux bourgeois de Domfront ce que Henri Ier leur avait déjà concédé, hein, Henri Beauclerc, quand il était devenu seigneur de Domfront. Je reviens sur les séjours, enfin les plus notables, probablement présents à Domfront pour le baptême de sa fille. Alors malheureusement pour moi, pour nous, la fille en question, il en a eu plusieurs, hein, des filles, il y a eu une Mathilde, il y a eu une Jeanne, etc. Mais celle-là, elle s'appelle Aliénor, donc c'est Aliénor la Jeune. On l'appelle souvent Aliénor de Castille parce qu'on l'a mariée plus tard au roi de Castille, Alphonse VIII, mais son véritable titre, c'est Aliénor d'Angleterre. Elle est baptisée à Domfront, c'est Robert de Torigny, qui nous le dit, l'abbé du Mont-Saint-Michel, qui nous le dit dans sa chronique. Et on peut lui faire confiance parce qu'il était un des parrains de la petite princesse. Je fais une parenthèse, il y a un autre chroniqueur, Raoul de Diceto, qui l'a fait naître à Rouen. Bon, on va croire Robert de Torigny. Donc ça, c'est le premier séjour très extrêmement probable d'Aliénor, c'est sûr, et d'Henri II Plantagenet à Domfront. Le deuxième séjour notable, c'est le séjour du 23-24 août 1169, avec une rencontre qui est restée assez fameuse entre Henri II et les légats du pape chargés de le réconcilier avec Thomas Becket. Alors, dans les légats du pape, il y a Gratien, qui était neveu du pape, mais on ne sait pas lequel. Est-ce que Eugène IV a été donné par l'historien? Mais c'est faux, parce que Eugène IV, il est pape de 1431 à 1447. Donc, ça fait quand même un petit peu tardif. Donc, c'est plutôt Eugène III, 1145-1153, ou Adrien IV, 1154-1159. Donc on voit, Eugène IV, c'est une erreur, c'est un mélange entre Eugène III et Adrien IV. Le deuxième légat, c'était Vivien, un archidiacre d'Orvieto, qui était un proche de la curie romaine. Et l'entrevue a été racontée par un chroniqueur de l'époque qui dit « Les légats du pape sont arrivés ». Henri Plantagenet les a reçus avec toutes sortes d'honneurs et de marques de déférence. Mais vous allez voir, c'est tout relatif, parce que pendant qu'il leur parlait, devant la porte de son logis, son second fils, Henri le Jeune, Henri Courmantel, arriva, qui était donc à Domfront aussi avec lui. Son fils arrive, suivi d'une joyeuse troupe de pages et de veneurs sonnant du cor pour annoncer la prise d'un cerf dans la forêt d'Andenne. Donc le roi a planté là l'entretien avec les légats, a été voir les chasseurs, les a complimentés, leur a dit qu'il leur faisait présent de la bête, et l'audience a été remise au lendemain, et dès le lendemain, le roi revint voir les légats, rentre avec eux dans une chambre où se trouvaient déjà l'évêque de Cé, et l'évêque de Froger, et l'évêque de Rennes, Étienne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que les légats venaient faire là? C'était pour le réconcilier avec Thomas Becket, et ça se passait très très mal. Thomas Becket, c'était l'ancien chancelier d'Henri II, il s'entendait très bien, sauf qu'Henri II a eu la très mauvaise idée de le nommer archevêque de Canterbury, c'est-à-dire primat d'Angleterre en quelque sorte, quand le siège de Canterbury a été vacant. Donc il s'est dit, je vais mettre un de mes fidèles à la tête de l'église d'Angleterre. Sauf que le Thomas Becket a pris son rôle extrêmement au sérieux, et du jour au lendemain où il est devenu archevêque de Canterbury, il s'est mis à défendre bec et ongles les intérêts de l'église, éventuellement contre ceux d'Henri II, contre les empiétements royaux. Donc ça a été très très mal. Henri II n'a pas accepté cette espèce de trahison, entre guillemets. Thomas Becket a été menacé, il s'est réfugié sur le continent. Voilà, on en était là. Et donc il y avait une mission pontificale pour tenter de les réconcilier. Je m'empresse de dire que ça n'a rien donné. On s'est plus ou moins menacé. Le lendemain, là, on s'est disputé. On a remis la décision ultime à plus tard, à une autre réunion plus tard. Bon, je termine rapidement hors de Domfront. Thomas Becket s'est décidé, alors qu'il n'avait pas reçu le baiser de paix. Alors, c'est extrêmement important d'avoir reçu le baiser de paix. Tant que Henri II pouvait promettre tout ce qu'il voulait, s'il ne donnait pas le baiser de paix, tout le monde pouvait comprendre que sa parole était purement formelle. Donc, nonobstant cette absence de baiser de paix, Thomas Becket est rentré en Angleterre, à Canterbury, et il a été assassiné dans sa cathédrale au Noël 1170. Ça a été un scandale. Retentissant. La preuve, c'est qu'on en parle encore. Henri II a été excommunié, il a été obligé de faire amende honorable, il s'est agenouillé à la cathédrale d'Avranches, la cathédrale Saint-André d'Avranches, qui a complètement disparu depuis, mais on a conservé une pierre de cette cathédrale médiévale, qui est encore exposée à Avranches, là, sur le promontoire. C'est la pierre sur laquelle Henri II s'était agenouillé pour obtenir l'absolution. Bon, je ferme ma parenthèse. Ensuite, dans les autres séjours possibles ou probables d'Henri II, En 1170, le 10 août, gravement malade et se sentant proche de sa fin, Henri II rédige son testament et peut-être était-il venu chasser dans les forêts d'Andenne ou de Landes pourries à cette occasion. C'est le chroniqueur Benoît de Peterborough qui raconte ça. En 1180, les comtes survivants font mention de dépenses pour le château de Domfront, les comtes de Renaud ou Régnier, le taillandier, prévôt de Domfront. On dépense plusieurs fois. Alors, une fois, ça se trouve dans les grands rôles de l'échiquier de Normandie, hein, ces mentions-là. Une fois, on dépense 77 livres, 22 deniers pour faire des travaux dans la chambre haute. Alors, le numismate que je suis fait une parenthèse, parce que 22 deniers, c'est absurde. Le denier, un sou fait 12 deniers, donc on aurait dû dire 77 livres, un sou, 10 deniers. Enfin bon, passons. On dépense une autre fois 29 livres, 14 sous, 12 deniers. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent 12 deniers. Ils auraient dû dire 29 livres, 15 sous. Ça aurait été plus rapide. Une troisième fois, 67 sous, 1 denier. Une quatrième fois, 40 livres. Enfin bon, bref. Au total, on dépense 150 livres, 3 sous, 9 deniers pour des travaux, pas forcément de fortification, plutôt des travaux de... d'aménagement, de bien-être, de confort au château de Domfront. Alors vous allez me dire, ça fait quoi ? Je traduis 150 livres à l'époque, c'est beaucoup, hein, c'est une grosse somme. Et on dépense encore 10, une douzaine ou 72, c'est mal écrit, livres et 10 sous pour des travaux au château et aux maisons de Domfront. Alors je ne sais pas quelles sont ces maisons de Domfront. Mais tout ceci, ce sont des brefs royaux. Alors le bref, c'est un ordre très très court. Hein. Quand on trouve ça de façon authentique, c'est un tout petit parchemin qui dit ordonne de tel jour, moi, roi d'Angleterre, hein, je ordonne de faire tel jour, j'ordonne de faire, etc., etc. Point. C'est tout. C'est pas plus long que ça. Donc un ordre, un bref écrit, ça s'occupait de Domfront, mais ils n'ont pas été forcément écrits à Domfront, surtout si le bref n'est pas localisé. Des fois ils le sont, mais des fois ils ne le sont pas. On a seulement le jour. On ne sait pas s'ils ont été rédigés à Domfront. Et puis après tout, Henri Plantagenet peut très bien s'intéresser à Domfront sans être à Domfront. On sait également que sa présence est lourde. Toujours dans les séjours d'Henri Plantagenet, il passe les fêtes de Noël 1185 à Domfront. Alors tout seul, je veux dire, bon, il a des serviteurs, il est à sa cour, mais sans sa famille, parce qu'il a mis son épouse Aliénor en résidence surveillée en Angleterre. Enfin, elle est quasiment emprisonnée, hein, son épouse, parce qu'elle complotait contre lui. Et ses enfants sont révoltés et ils sont pas avec lui. Donc, il a passé des fêtes de Noël en 1185, on dû être un peu tristounette. Et c'est la dernière fois qu'il est venu à Domfront, parce qu'il est mort à Chinon le 6 juillet 1189. Et son fils Richard lui a succédé. Et comme j'ai déjà été très long, on va s'occuper des séjours de Richard Cœur de Lion, de Jean Santerre, hein, des enfants d'Henri II, dans une autre chronique.